Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il a la trentaine banale, jean, t-shirt, sobre et détendu. Il vit à Lyon, dans une petite chambre de bonne du centre-ville. Il fait des petits boulots saisonniers dans la région et il touche à l'occasion le RSA. Il est actif dans le milieu militant, associatif. Il va dans les repas de quartier et dans toutes les manifs. Nous l'avons rencontré il y a quelques années à l'occasion d'une émission que nous avions faite sur les casseurs. Et puis nous l'avons recroisé ça et là. Aujourd'hui, ce qui est rare, c'est qu'il a accepté de nous parler de ses rapports avec la police, de ce qu'elle représente pour lui, de sa colère contre les flics, en assumant des propos qui pourraient, à certains, paraître fort choquants. C'est une émission que nous avons diffusée pour la première fois en 2016, à la suite des manifestations contre la loi travail, et que nous vous proposons de réécouter aujourd'hui. Elle, de son côté, elle a une bonne trentaine d'années aussi, c'est une très belle femme, semble-t-il, souriante et plutôt accueillante. Elle est une des rares femmes à avoir rejoint la brigade anticriminalité il y a quelques années. Elle intervient à Paris et en banlieue, elle vit dans un grand appartement d'un quartier chic parisien, rive gauche, avec son amie, visiblement plus aisée et un peu plus âgée qu'elle. Mais ça n'est pas l'histoire, même si vous l'entendrez, lui aussi un peu. Elle a accepté de nous parler également, ce qui est assez rare, de sa colère aussi contre la police, mais pas tout à fait, pour les mêmes raisons. Elle assume aussi des propos qui pourraient à certains paraître fort choquants. Tout de suite dans les pieds sur terre donc, flics et casseurs de part et d'autre. C'est un reportage d'Olivier Minot et Alain Lefkovitch diffusé pour la première fois le 26 juin 2016. À vous de me dire s'il a pris une ride.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Axel, je vis à Lyon. Je suis de passage entre des moments de travail dans les vignes autour de Lyon et des moments où je vis sur le RSA. Puis là, je me pose la question de reprendre mes études en droit. J'ai 30 ans, j'ai un master 2. Voilà, j'en ai marre de ces petits travaux dans les vignes très peu payés. Jeudi, c'était une manif qui était... une assez grosse manif à Lyon qui était déposée par les syndicats, du coup il y avait du monde. Et en fin de manifestation, là tout le monde était sur une place et était tranquille. Et là la BAC décide d'interpeller une personne. La personne ne se laisse pas plaquer au sol tout de suite, elle court, elle s'enfuit. On sait que si cette personne-là elle va se faire arrêter, qu'elle va passer en garde à vue. On sait que vu le contexte actuel, eh ben, de toute façon elle sera condamnée complètement indépendamment de ce qu'elle aura fait, et complètement indépendamment aussi des preuves qu'il y aura contre elle. Ça se trouve, elle n'aura rien fait. Ça se trouve, elle aura de fait tagué une banque. Si ça se trouve, elle aura de fait blessé un flic. On n'en sait rien. Mais de toute façon, pour les flics à ce moment-là, ce qui compte, c'est d'avoir des interpellations. Et ce qui compte, c'est d'avoir des condamnations à la fin de la manifestation pour faire peur aux gens.
Et à ce moment-là... Quand tu as vu ça, toi, tu as eu une réaction ?
Une réaction tout de suite épidermique. J'ai couru après la BAC. J'ai essayé de la rattraper, j'ai réussi à la rattraper, j'ai mis un baquet au sol, et je l'ai relevé, et je l'ai poussé loin, pour pouvoir, ils étaient deux, et pour pouvoir m'attaquer au deuxième baquet, qui lui avait déjà mis la main sur ce gars-là.
Mais comment on met un policier de la BAC au sol ? Ils sont armés ?
Mais c'est un être humain comme les autres, il est sur deux jambes, on le chope par son haut d'uniforme, là. Là, c'était pas un uniforme, parce que c'est la BAC, il avait juste un gilet. On le tire et puis voilà. Et c'est simplement s'il se laisse assez surprendre pour pas anticiper le geste, eh ben il se retrouve au sol. Et moi, mon but à ce moment-là, c'est de le mettre hors d'état de nuire. Et à ce moment-là, je suis pas tout seul, on est plein. Et là, c'était un moment où vraiment, cette étiquette de casseur, elle tombe. Parce que de tout ce monde-là, il y avait personne qui était masqué. Il y avait personne qui avait prévu de faire ça. Il y avait plein de gens qui avaient des gilets de syndicats, de grandes centrales syndicales, qui étaient présents aussi. Avec moi et avec tout le monde. Et que simplement leur arrestation, à ce moment-là, elle était choquante. Et qu'elle a provoqué une révolte. Et cette révolte-là, elle a dépassé le fait que « Ah, ben, je suis pas masqué, je suis pas préparé, je vais pas y aller. » Et maintenant, tout le monde a été choqué par le fait que les flics fassent une arrestation en fin de manifestation, au milieu du cortège, au milieu de la place, au milieu de tout le monde, alors que tout était calme à ce moment-là. Face à face avec les CRS, il y a eu des coups échangés avec les CRS, j'y ai participé, des gens, tout le monde autour de moi participait de toute façon, essayait de les faire dégager le terrain en attrapant leurs boucliers, en leur mettant des coups de pied. Voilà, le but c'était de les faire dégager le terrain, ensuite d'atteindre la BAC et ensuite de libérer la personne qui était en train de se faire arrêter. Ça n'a pas marché parce que c'était déjà trop tard bien sûr, mais simplement c'était l'expression de la colère. Et là les quelques flics qui ont été blessés à ce moment-là, j'espère qu'il y en a eu, et ben, ils s'en rappelleront de cette colère-là. Et à l'arrivée, oui, tout le monde s'est pris des coups de matraque, et puis tout le monde a subi les gaz lacrymogènes, et il y a eu plusieurs grenades de désencerclement qui ont été jetées dans les jambes des gens, avec des blessés à l'arrivée. Il y a quand même des gens qui ont encore une semaine après des séquelles dans l'oreille, et il y a quand même des gens qui ont pris des éclats dans les jambes avec des bleus gros comme ça. Mais c'est simplement le fait que là, à ce moment-là, les flics, ils auraient pu ne pas utiliser de grenades désencerclement et ne pas blesser les gens. Mais qui c'est qui va leur reprocher? Ou qui c'est qui va les condamner pour ça? Personne. Leur seule condamnation pour ça qui a été possible, c'est les coups qu'ils ont pris. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre réponse possible dans l'état actuel des choses. Je suis trop peureux pour casser des banques. Par contre, j'aime bien aller à l'affrontement avec la police. Du coup, oui, je peux être considéré comme casseur. Ce terme de casseur, c'est un mot qu'on a inventé pour simplement faire la différence entre la majorité des manifestants passifs et une minorité des manifestants actifs. Ce terme de casseur, il est intéressant parce qu'il s'applique que aux manifestations où il y a des jeunes étudiants ou des jeunes lycéens qui participent. Les manifestations d'agriculteurs, les manifestations de dockers, les manifestations de pompiers qui vont aussi à l'affrontement, on ne dit pas que c'est des casseurs, on dit qu'ils sont en colère. Les jeunes, on dit jamais qu'ils sont juste en colère comme ça, ou que c'était des manifestants comme les autres. Non, non, les jeunes, c'est des casseurs. Le terme casseur, c'est un terme insultant envers une partie de la population qui fait savoir ses revendications politiques d'une certaine manière, qu'on considère comme violente, mais que ce terme-là, il peut aussi être revendiqué. Et il y a eu énormément de banderoles pendant le CPE, pendant ensuite les mouvements qui ont suivi, qui disaient « nous sommes tous des casseurs ». Et ces banderoles-là, elles n'étaient pas tenues par des gens cagoulés, elles étaient tenues par des gens à visage découvert qui disaient « oui, il y a des casseurs, effectivement, et ça fait quoi ? Eh ben c'est bien ». Et puis nous, on y va à visage découvert et on dit « on est tous des casseurs parce qu'on soutient ce qui se passe ». Et là, c'est à ce moment-là où c'est intéressant. Face à la police, ma colère, elle est beaucoup plus directe et je lui laisse libre cours à ma colère. On voit tout le temps la police qui est dans la rue et qui contrôle les gens, qui est dans la rue, qui grille des feux rouges, comme ça, au pas, sans sirène. On voit tout le temps la police qui contrôle et qui jette des regards méprisants sur les gens ou qui vont faire des palpations de sécurité dans la rue. Et à ce moment-là, la police, ils sont à 12 sur une personne. Eh ben oui, ils imposent le rapport de force. Et encore, là, il y a un an exactement, les flics qui ont tué Ziad Ebouna, ils se sont fait totalement blanchir par la justice. Ça veut dire que la police, elle a le droit de tuer. En fait, c'est pas qu'elle a le droit, c'est pas que c'est inscrit, mais c'est simplement que dans les pratiques de la justice, la police, elle se fait jamais condamner. Au contraire, dès que la police, elle a un poignet foulé, dès qu'il y a un flic qui s'est un peu tordu le coude en faisant une clé de bras à quelqu'un, eh ben là, il a des dommages et intérêts. Alors que la personne, peut-être qu'elle aura 30 jours d'interruption temporaire de travail. Ils ont une impunité qui est immense. Quand on voit un flic tuer quelqu'un de 3 balles dans le dos, on se dit que c'est pas possible et qu'il va se faire condamner. Eh ben non. Et ça dépasse l'entendement. Face à ça, si on veut que les flics, ils aient vraiment un rapport de force en face d'eux, si on veut vraiment que quelque part, ils subissent les conséquences de leurs actions humiliantes et de leurs actions meurtrières, eh ben, c'est que dans la rue qu'on peut leur donner cette réponse-là. voilà, on va attaquer les flics en manif. Les attaquer d'une part, oui, totalement gratuitement, en leur envoyant des œufs de peinture ou des pavés quand ils sont le long des cortèges. Ben, ils n'ont rien fait à ce moment-là, mais tant pis, c'est pas grave. C'est simplement pour toutes les actions de merde qu'ils ont faites tout au long de l'année. S'ils se prennent quelques œufs de peinture dans la tête pendant 2 jours, c'est pas grave. Enfin, pour eux, c'est pas grave. Nos réponses, elles sont complètement insignifiantes, même là. Même les pavés, ils sont complètement insignifiants. Même le flic qui va sortir avec la tête un peu en sang, c'est insignifiant. Comparé à tous les gens qui se font contrôler, à tous les gens qui passent des gardes à vue, et à tous les gens qui en sortent avec 30 jours d'interruption temporaire de travail, c'est insignifiant, la blessure de la police à ce moment-là. Quand la police, par contre, en plus de ça, elle ose essayer de faire des interpellations au milieu de cortège, eh ben oui, eh ben là, c'est normal qu'ils se fassent ramasser. Enfin, c'est pas normal, mais c'est logique, et c'est une certaine expression de la justice qui se fait à ce moment-là.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Aurélie, j'ai 33 ans. Ça va faire bientôt 15 ans que je suis dans la police. Je suis à la brigade anticriminalité en banlieue parisienne. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ce métier. Je suis rentrée, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Et c'est vrai que j'avais envie de servir, voilà, d'aider mon prochain. Hein. Comme sur le plan personnel, je suis un peu comme ça aussi. J'ai commencé à la police de proximité, donc. Et... le contact, on l'avait assez facilement. Moi, avec les jeunes, pas trop. Hein. Voilà, la haine de la police, ça a toujours été. Hein. Donc, voilà, la police de proximité, c'était de la prévention, mais c'était pas trop efficace. Enfin, je trouvais ça assez rigolo. Oui, c'est un côté fleur bleue, c'est bien. Bon, une bonne image de la police, prendre contact sur Paris avec les touristes et tout ça, renseigner. Oui, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il est c'est important de venir en aide, mais pas de renseigner sur le plan. On n'est pas des guides touristiques non plus. Donc, policiers, bon, c'est quand même voilà, de l'action sur le terrain. C'est plus que servir, c'est protéger. À l'époque encore, c'était pas trop dangereux d'y rentrer, en fait. Les risques étaient vraiment minimes. Donc, mes parents étaient plutôt assez fiers et contents. Il y avait sécurité de l'emploi et tout ça. Ils étaient plutôt rassurés. Non, mon entourage, ça les effrayait pas. À l'heure actuelle, plus davantage, ouais. C'est clair avec ce qui se passe, les attentats et tout ça. Comme nous sommes amenés à intervenir en priorité, hein, là-bas, brigade anticriminalité, en attendant l'intervention des services adéquats de la BRI et du RAID, et donc on pourrait dire on va être de la chair à canon, hein. Voilà, on est exposé clairement en premier, quoi, et de jour comme de nuit, on est à l'abri de rien, et voilà, et c'est effrayant. C'est effrayant. Bon, déjà que nous, notre quotidien, c'est pas rose, hein. C'est un métier à risque. Toutes les nuits, on est confronté à des jeunes de banlieue, moi et mon équipage. Hein. On se fait caillasser, on se fait insulter, cracher dessus. Après, on ramène les mecs, que ce soit un exemple, hein, outrage, rébellion ou vol-violence, quand même des délits très importants, hein, à mon goût. Hein. Vol à l'arraché, vol aux roulottes. Et en fait, les mecs, on les ramène en garde à vue. Ils font quelques heures et après, ils ont au pire un rappel à la loi et au mieux une convocation ultérieure avec des mois de sursis, hein, de prison. Mais bon, c'est vraiment léger parce que la plupart des individus ont un stick, c'est-à-dire un casier judiciaire avec une quarantaine de faits en moyenne. Et en fait, ça fait que rajouter un 41e fait à leur actif, quoi. Voilà, on les ramène, on les relâche, en fait, on n'a pas fini la procédure, ils sont déjà dehors. Donc, morale, on est un peu démotivé. Enfin, moi, je suis un peu démotivé, vu ces circonstances, lorsqu'on poursuit un véhicule qui refuse de s'arrêter et qui franchit, je sais pas, 5-6 feux et qui refuse le contrôle, en fait. On va nous dire notre hiérarchie va nous demander d'arrêter la poursuite parce que c'est risqué pour lui-même et pour les autres usagers de la route. En revanche, lui, le mec, il peut avoir séquestré une femme dans la bagnole ou transporté 1 kilo de shit. Ou... voilà, le mec n'est pas incriminé. En fait, il est en toute tranquillité, il risque rien, quoi. On En parlant des manifestations, on a pour ordre de ne pas intervenir. C'est-à-dire, sous nos yeux, on voit une femme se faire extirper de son véhicule et des jeunes y mettent le feu. Nous, bon, ça nous révolte, on est quand même de l'anticrime. On regarde les tenues vestimentaires et puis, bien entendu, que bon, on va quand même prendre l'initiative d'aller les chercher à l'issue. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de risques, mais on a quand même des grenades, des flash 40. On a pour ordre de ne pas les utiliser parce que si quelqu'un est blessé, voilà.
En fait, vous ne pouvez plus intervenir, car vous allez être immédiatement montré du doigt. CRSSS. Aujourd'hui, on vous lance des bombes, des cocktails Molotov. On est dans une guerre urbaine. Donc, quand on est en guerre, on n'envoie pas des miliciens, on envoie des hommes armés, des troupes. Vous êtes confronté à la haine en face. On l'a encore vu là, lors des manifestations. Il y a deux cortèges. Il y a un cortège qui est là pour la guerre. Les manifestations, très bien, c'est un droit. On est en démocratie, il paraît. Alors, si on est en démocratie, eh bien, les bandits, les voyous, les casseurs, il n'y a pas de pitié à avoir pour eux. Or, aujourd'hui, vous devez prendre sur la tête, vous devez prendre des coups, vous faire insulter, vous ne pouvez plus faire votre métier, parce que sinon, vous allez encore mettre, soi-disant, plus le feu aux poudres. C'est-à-dire que pour calmer, vous devez prendre tout sur la gueule. Et là, il y a un moment donné, c'est pas que vous que la situation va toucher réellement. C'est que là, on tombe dans une anarchie totale. Quand on ne respecte plus les forces de l'ordre, quand on ne respecte plus un uniforme, quand on ne respecte plus les lois, toutes les lois, c'est-à-dire les civilités, ne serait-ce que les civilités, on tombe dans l'anarchie.
Je mets au défi qui que ce soit de se faire insulter et cracher dessus et d'avoir peur de ne pas réagir et de se laisser faire. Moi, uniforme ou pas uniforme, quoi qu'il arrive, je ne laisse pas faire ça. Donc, policier ou pas. On devrait avoir certains droits et certaines images nous portent préjudice parce que faut voir ce que l'individu fait au personnel de police avant que les images soient prises et tout ça. Donc moi je mets au défi à tout à chacun de garder son sang-froid et de prendre sans rien dire. Voilà, notre quotidien quoi. Les casseurs ou les manifestants qui expriment leurs idées vraiment dans l'extrême, il y a un moment où la police va charger forcément. Et s'ils restent présents en première ligne, eh ben faut se dire qu'ils prennent le risque et ils sont responsables. Hein, ils en ont conscience hein, de prendre un mauvais coup. Donc après, faut pas se plaindre, faut pas mettre ça sur le dos des autorités, de l'État. S'ils ont peur de se prendre un mauvais coup, ils n'ont pas envie que ça dégénère ou quoi. Ils rentrent chez eux. Voilà. Ou s'ils se prennent une grenade ou quelque chose, écoutez, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Voilà.
Et quand on voit des gamins, parce qu'on parle de manifestation, mais ça c'est encore un autre sujet, mais quand on voit des gamins de 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui détroussent, qui poignardent, qui sont dans la rue à 2h du matin, un 31 décembre, qui se prennent un coup de lacrymo, oui, parce que c'est une émeute, et qu'en fait on va porter plainte contre la police, parce qu'un gamin de 9 ans a pris un coup de lacrymo dans la tête. Moi, j'aimerais demander, qu'est-ce que fout un gamin de 9 ans à 2h du matin, quand justement c'est la guerre ?
Quand j'étais plus jeune, j'idéalisais le monde de la police. Je pensais que les choses suivaient, que les choses étaient faites après les interpellations pour mettre un terme à l'injustice et tout ça, mais j'étais dans l'utopie totale, voilà. Après, j'avais un espoir et d'année en année, j'ai vite vu et j'ai pas baissé les bras parce qu'on aime notre métier. voilà, on a envie de faire au mieux avec les moyens, mais bon, on est de moins en moins nombreux, on a de moins en moins de matériel, sauf là, depuis quelques mois, avec les attentats, on nous en donne davantage, mais c'est un peu tard pour s'activer, et alors tout le monde s'excite avec les stages, sur les changements d'armement, les fusils d'épaule et tout ça, mais bon, il faut faire passer un maximum d'effectifs en peu de temps, et bon, ça aurait dû être, ils auraient dû y penser avant tous ces faits-là, quoi. Les forces de l'ordre étaient débordées lors de l'avant-dernier attentat au Bataclan et tout ça, parce que on n'était pas prêt à intervenir sur trois endroits différents en même temps. Et seulement, on aurait pu se préparer à tout ça, c'était évident. Mais on n'a pas été entraîné, il y a rien qui a été fait pour en prévision d'eux, alors que on faut bien se douter, il y en aura plein d'autres et qu'il allait y en avoir. Bon, on aurait dû pouvoir faire face. Seulement, bon, bah là, on était dépassé. Et ça fait des années que je suis affectée par tout ça. Là, ça prend un peu plus d'ampleur, mais au quotidien. Des gens armés, il y en a de plus en plus, et des règlements de compte entre quartiers, il y en a assez fréquemment, on n'en parle pas, mais des blessés par balle, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc la libre circulation, enfin la circulation des armes, voilà, on a du mal à stopper ça, donc du coup c'est notre quotidien. Oui, on est vulnérable, peut-être plus que tout citoyen, mais...
Vous êtes devenus des cibles. Vraiment des cibles, quand on entend dans les manifestations un flic, une balle, excuse-moi, alors moi je fais pas ce métier-là, mais je vis avec toi. D'abord c'est révoltant bien sûr, mais de quoi on parle, quoi. Moi je suis admiratif totalement de ce que tu fais, parce que se lever tous les jours, aller au casse-pipe, parce que c'est vraiment aller au casse-pipe, ne sachant pas, même toi tu le dis assez souvent, bon bah... Peut-être à tout à l'heure. Alors, c'est une blague maintenant entre nous, mais moi, ça me fait toujours pas beaucoup rire. C'est pour ça qu'on est même venu, j'en suis venu à dire, pour répondre à ta blague, de dire, bon, bah, si au moindre truc, tu tires la première. Hein. Bon, ça reste des blagues, mais quelque part, ça prouve un mal-être et un danger qui est existant. Mais je sais pas comment tu fais, effectivement. Donc, on dit que ce sont des vocations. On rentre dans la police comme on rentre dans les ordres. Mais heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui baissent pas les armes, qui jettent pas l'éponge. Mais très honnêtement, moi je suis admiratif.
C'est un métier, voilà, pour 2200 euros, se faire exploser par un illuminé au nom de sa religion, et puis d'être menacé en permanence, tout. Voilà, chaque jour, c'est... Je pars de chez moi en ne sachant pas si je vais revenir entière. Hein. Après, les coups, ça peut venir à tout moment, voilà. Donc, je sais pas si le jeu en vaut la chandelle à l'heure actuelle et si ça vaut vraiment le coup, sachant qu'on fait que limiter les dégâts et en rien mettre un terme à voilà. Donc, je suis un peu démotivée, en fait. Et j'ai, pour ainsi dire, même envie d'arrêter la police. Voilà, dès que l'occasion se présentera. L'élément déclencheur, en fait, ce serait d'aller sur un troisième attentat et peut-être d'essuyer des tirs. Et si je m'en sors, effectivement, je réfléchirai à deux fois avant d'y retourner. Si vraiment je suis exposée face aux terroristes après, ouais, ce serait, je pense, suffisant pour... prendre l'initiative, vraiment faire les choses, faire les démarches. Changer de tout autre corps de métier, je vais faire quelque chose, une activité beaucoup moins risquée. Il n'est même pas question du salaire, en fait. Hein, c'est juste de moins exposer ma vie, en fait. Voilà.
What you like, what I like. Why can't we both be right?
C'était Flic et Casseur, un reportage d'Alain Lefkovitch et Olivier Minot, réalisé par Eric Lancien avec un coup de main de Clémence Grosse et diffusé pour la première fois le 28 juin 2016 à la suite des manifestations contre la loi travail. Merci bien sûr aux deux personnes qui ont accepté de nous parler. C'était Sandrine Chapon pour l'attaché de production des Pieds sur Terre. À l'époque, c'est maintenant Jeanne Delecroix et c'est Nino Lima, notre stagiaire.